Bonsoir. La mort d'un médecin hospitalier infecté par le Covid-19, il est la première victime connue parmi les personnels soignants. Médecin de 67 ans venu en renfort à l'hôpital de Compiègne, le ministre de la Santé et le maire de Compiègne lui rendent hommage en soulignant le grand dévouement dont il a fait preuve. En Corse, 12 patients évacués d'Ajaccio, direction Marseille, évacués sur un porte-hélicoptère de la marine pour désengorger un hôpital qui s'apprête à faire face, comme beaucoup d'autres, à l'afflux annoncé des malades dans la semaine qui vient. Partout, l'épidémie continue à gagner du terrain. Plus de 600 morts encore ce dimanche en Italie, près de 400 en Espagne. Quelques pays hésitent encore à décréter le confinement. C'est le cas du Royaume-Uni, où les parcs et jardins étaient encore ce dimanche pleins de monde. En France, l'état d'urgence sanitaire peut être maintenant officiellement déclaré pour 2 mois. Députés et sénateurs se sont mis d'accord sur le texte du projet de loi, qui a entre autres durci les sanctions liées au confinement, sanctions qui pourront aller jusqu'à 6 mois de prison en cas de récidive au pluriel. Et puis à noter aussi ce dimanche soir la restriction des vols entre l'Hexagone et l'Outre-mer. La reprise des chantiers du BTP demain, on vient d'en parler. Le tout pour la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'est d'adapter les procédures pour mieux respecter les gestes barrières. Nous l'entendrons. Enfin, un peu de détente dans ce monde confiné, puisqu'on ne peut plus sortir ni recevoir. Prenons quand même l'apéro à distance, hein, l'apéro Skype, devenu très vite très tendance.
France Inter.
On savait que ça allait arriver. Réaction ce soir du médecin urgentiste Patrick Pelloux à la mort ce matin d'un médecin hospitalier infecté par le Covid-19. Médecin de 67 ans venu en renfort à l'hôpital de Compiègne dans l'Oise, l'un des départements qui fut touché en premier par l'épidémie. Il est le premier soignant victime du virus, a souligné ce matin le ministre de la Santé, Olivier Véran, en annonçant la nouvelle, en soulignant à nouveau le lourd tribut que paie aujourd'hui la grande famille des médecins. Et c'est ce que fait aussi ce soir le maire de Compiègne, Philippe Marigny, également président du conseil de surveillance de l'hôpital. Il est au téléphone de Mathilde Dehimy.
Il continue à travailler par amour de son métier. Il aurait pu rester chez lui. Il a fait tout le contraire. Il a été présent avec tous les soignants qui ont fait un travail extraordinaire dès cette première semaine. Et il a été lui-même victime dès les premiers jours. C'est un moment très difficile pour tout le corps hospitalier. Pas seulement pour les urgentistes, vous savez, tout le corps hospitalier est solidaire, tout le monde est dans la même barque, c'est le corps hospitalier qui est touché, c'est pas uniquement une catégorie professionnelle.
Voilà, et la mort de ce médecin relance évidemment la polémique sur les masques dont manquent les professionnels de santé, tous ceux d'ailleurs qui sont au contact du public. Son usage généralisé n'est pas nécessaire, a répété le ministre de la Santé en s'appuyant sur les avis de l'OMS qui ne le recommande pas. Quoi qu'il en soit, le gouvernement actuel n'est pas responsable de cet appauvrissement des stocks, a commenté ce dimanche Roselyne Bachelot, dont la parole est importante. Elle était ministre de la Santé pendant l'épidémie du H1N1 en 2010, très critiquée à l'époque pour avoir surréagit et commandait d'énormes quantités de masques et de vaccins. Ce n'est pas quand la pandémie est là qu'il faut agir, dit-elle, c'est quand tout va bien qu'il faut faire des stocks. L'État fait aujourd'hui le maximum avec les moyens qui lui ont été donnés. À ce sujet, le gouvernement a dit avoir passé commande de 250 millions de masques qui devraient arriver dans la semaine, annonçant avoir également confié aux industriels et aux chercheurs la mise au point de masques alternatifs, jetables ou réutilisables. 40 prototypes selon le Premier ministre, serait déjà en cours de test. De nombreuses entreprises textiles se sont portées candidates, parmi elles Plim, une PME de Mel, près de Niort, spécialisée dans les protections intimes, Sandy Dauphin.
En temps normal, cette PME fabrique des protège-slip en tissu lavable bio. La fondatrice de Plim, Capucine Mercier, a stoppé la production pour confectionner une vingtaine de prototypes de masques.
On avait la technicité sur le textile et en fait, au vu des pénuries, on s'est dit qu'il fallait y aller.
Et elle envoie ses prototypes par colis à la Direction Générale de l'Armement, la DGA, chargée en cette période de crise de tester les masques alternatifs.
Des tests pour mesurer la filtration et la respirabilité, parce qu'ils sont spécialisés aussi sur tout ce qui est masque, masque à gaz, etc. Donc là, ils aident pour aller très vite.
Dans un premier temps, la société ne fabriquera pas les masques FFP2, les plus protecteurs réservés aux soignants en contact avec les malades du Covid-19, mais des masques anti-projection qui, eux aussi, font cruellement défaut en ce moment.
Le premier niveau des masques qu'on fait, ça va être pour le commerçant, le chauffeur de bus, quand on sort de chez soi pour aller à la pharmacie ou faire ses courses. C'est un anti-projection qui permet d'éviter de projeter des gouttelettes de salive, donc c'est plutôt pour protéger les autres. Et puis ensuite, différents masques avec différentes filtrations possibles plus fines.
La société n'attend plus que le feu vert pour fabriquer près de 6000 masques.
Sandy Dauphin, dans les jours, les semaines qui viennent, cette question des masques sera résolue. D'autant, on l'a dit déjà, que de nombreuses entreprises ont fait don de leur stock. Et voilà qu'en plus, on trouve des masques oubliés dans les greniers, en tout cas dans le grenier d'une mairie à Bouchain, dans le Pas-de-Calais, Louis Stoman.
En voyant des employés de mairie porter un carton de masques, Ludovic Ziantec s'est interrogé.
Je me suis interrogé sur l'origine de cette boîte, ça semblait naturel pour tout le monde. Sauf que je voulais quand même en savoir plus.
Il a alors remonté la piste jusque dans les combles de l'hôtel de ville.
Avec une lampe de poche, je me suis dirigé vers plusieurs lieux. Et c'est là où j'ai découvert effectivement tous ces cartons qui étaient dans un recoin du grenier. En parfait état, avec à l'intérieur des boîtes de masques FFP2 et de masques chirurgicaux. Et je vous avouerai, je n'en revenais pas.
18 000 masques aux normes FFP2, 12 000 masques chirurgicaux, un trésor dont les soignants manquent et qu'ils réclament à grands cris.
On a estimé qu'on pouvait alimenter les 5 hôpitaux de l'arrondissement, Valenciennes, Denain, Saint-Amand, Somain et Dechy.
Hôpitaux qui se sont empressés de récupérer entre 2000 et 4000 masques chacun. 8000 sont allés alimenter les pharmacies et l'EHPAD de la commune. C'est le précédent maire qui a réalisé ce stock en 2009 contre la grippe H1N1. Ludovic Ziantec n'en avait pas connaissance et il incite donc ses homologues à chercher. Peut-être ont-ils eux aussi ces précieux masques dans leur grenier.
Des masques datant de l'époque Bachelot, justement. En attendant la vague, dans les Hauts-de-France, le Grand Est et en Corse, les hôpitaux déjà sous tension se prépare à faire face à l'afflux annoncé de patients dans la semaine. 12 malades ont été évacués ce dimanche d'Ajaccio en direction de Marseille, évacués sur un porte-hélicoptère de la Marine nationale de façon à soulager justement cet hôpital d'Ajaccio qui ne compte que 16 lits pour l'instant. Le préfet de Corse, Franck Robine, au téléphone de Lauriane Navarre.
Je le cache pas, je suis très préoccupé. Tout l'enjeu, c'est de savoir si la vague va être haute et si la hauteur de cette vague va déborder le nombre de lits en réanimation. Nous avons donc 15 lits actuellement, nous en aurons 26 en début de semaine. Nous avons un objectif à Ajaccio qui est de 40 lits. À Bastia actuellement, nous avons 21 lits en réanimation avec un objectif à 31 lits. Donc vous voyez, tous les efforts sont faits par le personnel soignant, personnel hospitalier pour réaménager les hôpitaux, se former, récupérer du matériel. Et il faut que les Corses respectent strictement le confinement.
Et dans les jours qui viennent par ailleurs, l'hôpital de campagne installé par l'armée à Mulhouse accueillera aussi ses premiers patients sur le parking de l'hôpital.
19h08 sur France Inter, c'est le journal d'Yves Decamp.
La France en état d'urgence sanitaire. Députés et sénateurs se sont donc accordés sur le texte définitif du projet de loi. Texte qui permet au gouvernement, dans les 2 mois qui viennent, de restreindre les libertés publiques, notamment la liberté de circuler. L'autorise à réquisitionner, si besoin, personnel ou marchandises, à soutenir également financièrement les entreprises. Un texte qui fixe au 2 juin la date limite de dépôt des listes pour le second tour des municipales. Bref, c'est un petit air d'unité nationale qui a flotté à l'Assemblée ce dimanche. Ce qui n'empêche pas bien sûr l'opposition de s'opposer, sans acrimonie, a dit Jean-Luc Mélenchon, mais de façon vigilante et exigeante, sans accabler, mais en disant les choses. Quant aux Républicains, sans être d'accord sur tout, il veut être également dans la bienveillance, en se faisant le relais des questions que se posent les Français. Sur ce point, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, appelle le gouvernement à ne pas prendre de retard maintenant sur le traitement du coronavirus, et il lui demande très sérieusement de généraliser dès à présent l'utilisation de la chloroquine, médicament antipaludique, dont l'efficacité est encore en train d'être testée.
Pourquoi ne l'utilise-t-on pas? Elle a un avantage, elle n'est pas chère. Est-ce que c'est parce que des grands labos aimeraient se faire de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un médicament qui coûte pas cher parce que les droits sont tombés dans le domaine public, qui est bien connu parce qu'il est là depuis 1949, donc on connaît les contre-indications, c'est pas comme si quelque chose de très nouveau arrivait, et qui a un certain nombre de résultats. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Les gens meurent. Bon, donc on doit pouvoir utiliser la chloroquine, sans doute avec d'ailleurs une autre molécule d'antibiotiques. Mais moi je dis, on a eu suffisamment de retard dans la phase notamment de tests de masques et du reste et de confinement pour qu'on n'en prenne pas sur le traitement.
Bruno Retailleau ce midi sur France Inter. Tout est prêt, a déjà répondu le ministre Olivier Véran, qui veut attendre la validation scientifique et médicale des tests pour accorder son autorisation, en disant espérer des résultats dans les 15 jours. Ce texte instaurant un état d'urgence prévoit aussi un renforcement des sanctions pour non-respect du confinement, une amende à 135 €, rien de changé sur ce point, mais beaucoup plus lourde, jusqu'à 1 500 € en cas de récidive dans les 15 jours, 3 700 € et 6 mois de prison au-delà. Mesure sévère mais indispensable pour la garde des Sceaux et pour les parlementaires qui sont d'accord sur ce point. Des mesures qui seront, cela dit, difficiles à appliquer à la lettre dans certains quartiers, dans les lieux habituels de tension notamment, comme en Seine-Saint-Denis par exemple, où plusieurs personnes ont déjà été placées en garde à vue depuis le début du confinement. Emmanuel Leclerc.
Oui, sur l'augmentation des amendes en cas de récidive, plusieurs policiers de Seine-Saint-Denis, joints aujourd'hui, avaient comme un gros doute. Regardez, disent-ils, depuis 4 jours, il n'y a eu en fait que très peu de récalcitrants, quelques-uns seulement. Et pour les quartiers où il y a encore des rassemblements, quelle que soit l'heure, Bobigny, Aulnay-sous-Bois, Sevran ou encore Clichy-sous-Bois, l'aggravation du tarif des amendes ne changera rien ou presque. On a fait une cartographie des appels pour faire respecter le confinement et empêcher les attroupements ces derniers jours, confie un responsable syndical, et on tombe à une ou deux exceptions près, quasiment à chaque fois sur des points de deal, des lieux de trafic de drogue, avec des guetteurs qui s'enfuient en courant. Au final, il n'y a pas de verbalisation, mais en revanche, comme en temps normal, on tombe, dit-il, dans des guet-apens. Au mieux, on se fait caillasser. Au pire, on essuie des tirs de mortier, de feux d'artifice. Et là, ce week-end, poursuit-il, ça craque chez des collègues. On leur a mis la pression pour intervenir, mais il n'y a pas forcément les effectifs suffisants et encore moins de protection pour des interpellations. Pas de gants, pas de masques. En plus, dénonce une autre source. On a bien vu que les arrestations pour mise en danger de la vie d'autrui, effectivement, après des actes de rébellion, se sont terminées par un rappel à la loi que le danger de contamination n'est donc pas retenu par les procureurs. Sous-entendu, à ce rythme-là, les interventions policières pour faire respecter le confinement dans des cités sensibles ne vont pas continuer très longtemps.
Emmanuel Leclerc. Dans le cadre également de cet état d'urgence, les couvre-feux se multiplient. Ce soir, la préfecture des Alpes-Maritimes prend un arrêté imposant le couvre-feu de 22h à 5h dans toutes les communes du littoral, dans les Alpes-Maritimes donc, et dans toutes les autres villes de plus de 10 000 habitants. Arrêté qui impose la fermeture des commerces alimentaires à 21h30. À l'étranger, le prolongement annoncé du confinement en Espagne, le chef du gouvernement Pedro Sanchez demandera cette semaine aux députés l'autorisation de maintenir l'état d'alerte jusqu'au 11 avril, soit 2 semaines de plus. C'est la seule mesure efficace, dit-il, pour lutter contre l'épidémie qui a déjà fait en Espagne près de 1800 morts. C'est le deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie. L'Italie où 651 morts supplémentaires sont venus s'ajouter ce soir au bilan déjà très lourd. Le gouvernement de Giuseppe Conte a ordonné l'arrêt de toute activité productive qui ne soit pas strictement nécessaire. Dans ce contexte, seuls ou presque, les Britanniques restent toujours l'arme au pied, malgré les 233 morts déjà recensés. Ils étaient encore nombreux ce dimanche dans les parcs et jardins, sans respecter aucunement les consignes de sécurité, pourtant répétées par les autorités, des autorités britanniques qui, pour l'instant, ont seulement annoncé la fermeture des pubs, des restaurants, des théâtres et des écoles. Antoine Gignot à Londres.
Sur les hauteurs de Primrose Hill, comme dans la plupart des parcs, plusieurs groupes font de la course à pied, les enfants jouent sur les pelouses, les parents discutent assis sur les bancs, très peu de masques sur les visages, très peu de précautions lorsqu'ils se rencontrent. Attitude ahurissante pour le maire de Londres. À la télévision, Sadiq Khan exhorte les Londoniens à rester chez eux. La vie a changé, dit-il, ne quittez votre maison que si vous y êtes vraiment obligé. Plusieurs parcs publics vont fermer ce soir. Le projet de loi qui sera examiné demain au Parlement pourrait permettre aux fonctionnaires de police d'isoler certaines personnes et de mettre en place un système pour faire respecter les règles de distanciation sociale. Autrement dit, même si le gouvernement continue de prôner la liberté individuelle, le Royaume-Uni se dirige petit à petit vers un confinement plus sévère. 40 scientifiques demandent d'ailleurs, dans une lettre ouverte au Premier ministre, un verrouillage des zones les plus touchées par le virus, l'isolement des malades et l'augmentation du nombre de tests. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
À l'instant, un nouveau bilan concernant le Royaume-Uni. 47 morts supplémentaires aujourd'hui au Royaume-Uni, ce qui porte le bilan total lié à l'épidémie à 281 décès. En Allemagne, qui pour l'instant n'a toujours pas non plus décrété le confinement, le gouvernement d'Angela Merkel annonce ce soir de simples mesures de distanciation sociale. Le gouvernement allemand interdit notamment les rassemblements de plus de 2 personnes dans les espaces publics. L'objectif, explique la chancelière, c'est de gagner du temps dans le combat contre le virus. La chancelière qui s'est trouvée en contact vendredi avec un médecin testé positif au coronavirus et qui a donc décidé de se placer immédiatement en quarantaine. En France, les chantiers reprennent demain lundi dans des conditions très strictes de sécurité. Des procédures adaptées au respect des gestes barrières devront être respectées, bien sûr. Un accord avait été trouvé sur ce point entre le gouvernement et les professionnels du bâtiment pour assurer la continuité de cette activité importante pour l'économie, aux grandes dames notamment de la Fédération CGT qui appelle les salariés à rester confinés chez eux. Pour la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur France Inter, il y a quelques instants, il suffit d'être très prudent.
Souvent, sur un chantier, on part ensemble dans la même camionnette. C'est sûr qu'on ne peut pas être 6 les uns à côté des autres, ou même 4. Donc ça veut dire que si on va sur le chantier, il faut peut-être y aller en plusieurs véhicules, rembourser l'essence. Comment on fait pour être à 1 mètre de distance? Comment on fait pour pouvoir se laver les mains? Il faut un point d'eau ou il faut du gel pour pouvoir se laver les mains. Aujourd'hui, ce qu'on a convenu hier avec tous les professionnels du bâtiment, de l'artisan à la grande entreprise et aux travaux publics, c'est qu'on allait travailler. Ils vont nous proposer demain des protocoles pour les métiers qu'on va approuver du point de vue de l'administration pour que on puisse vraiment se dire avec ça les salariés sont protégés, pour que les artisans ou les grands employeurs dans le bâtiment puissent dire là on peut y aller et là il faut mieux pas y aller.
Pour l'ordre des architectes, les conditions ne sont pas remplies pour une reprise générale des chantiers qu'il conviendrait de limiter, dit-il, aux chantiers d'intérêt général pour les particuliers ou les services publics. Les chantiers reprennent une partie de leur activité. Les compagnies aériennes, en revanche, restent plus que jamais au chômage technique. La plupart ont annoncé la suspension de tout ou partie de leur trafic. Dès demain, c'est l'ensemble des vols entre l'Hexagone et l'Outre-mer qui seront limités au strict nécessaire. L'arrêté a été publié ce matin au Journal officiel. Il prévoit également une restriction des vols inter-îles jusqu'au 15 avril. Tiziana Marone de Martinique la Première nous appelle.
Plus de vols entre l'Hexagone et la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, tout comme sont annulés les départs de l'une de ces collectivités à destination de la métropole. Certains déplacements restent autorisés, motifs impérieux d'ordre familial, motifs de santé relevant de l'urgence et motifs professionnels ne pouvant pas être différés. Pour bénéficier de l'une de ces exceptions, les personnes doivent se présenter aux transporteurs aériens munis de plusieurs documents pouvant justifier le motif du déplacement, des documents accompagnés d'une déclaration sur l'honneur. Le ministère des Outre-mer précise que cet arrêté ne fait pas obstacle au retour dans l'Hexagone des touristes partis en Outre-mer, comme des résidents ultramarins partis pour un court séjour dans l'Hexagone n'ayant pas de solution pour y rester.
À noter que la Nouvelle-Calédonie, de son côté, va mettre en place des mesures de confinement total dès demain soir minuit. 4 personnes ont été testées positives dans l'archipel. Les dernières informations de la soirée, 20 navettes de bus réservées exclusivement au personnel hospitalier seront mises en place dès demain en Ile-de-France pour faciliter bien sûr leur déplacement. Et puis le président de la Fédération française d'athlétisme qui réclame à son tour à l'instant un report au moins jusqu'à l'automne des Jeux Olympiques de Tokyo. Allez, dans un instant, on parlera dans le téléphone sonne des difficultés à vivre le confinement et des conséquences parfois graves qu'il peut entraîner dans les familles. En attendant, le bon côté des choses, si on peut dire, puisqu'on ne peut pas sortir ni même inviter les copains, eh bien, on peut toujours s'organiser un petit apéro en ligne. Après la conf call, la conf drink, sur Skype, WhatsApp ou Messenger, chacun chez soi, mais tous ensemble, comme ici, en Haute-Savoie, chez Tommy Cataneo.
Quelques chips sur la table, 2 verres de martini, et c'est parti.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien et vous?
En 2 clics, ma copine et moi, on s'est connectés sur Messenger avec 3 couples d'amis.
Santé,
parti. Confinement.
C'est bien sûr le principal sujet de conversation avec le coronavirus. On se raconte nos journées, télétravail pour les uns, activités manuelles pour les autres, un peu d'exercice aussi pour Valentin et Elodie, mais sur le balcon.
Ce qu'on a fait d'autre, on a fait du sport. Donc ensuite, il nous publie des trucs à faire à la
con. Ouais, CrossFit, il a bon dos.
Bon, c'est vrai qu'un apéro par écran interposé, c'est quand même moins sympa qu'en vrai, mais on s'adapte comme on peut, selon Quentin, qui habite Chambéry.
C'est un côté marrant, c'est dommage qu'on en soit réduit à ça, mais on n'a pas le choix. Comme tout le monde, on a envie de continuer à se voir, mais on sait qu'il faut faire attention.
L'avantage de l'apéro visio, c'est que même si on a bu un verre de trop, on n'a pas à se poser la question de savoir comment on va rentrer.
Allez, soyez fort, bisous.
Bisous.
Voilà, on n'est pas non plus obligé d'abuser.
Mais on peut se faire un petit Skype héros, Yves de Caen, demain soir.
Apéro Skype.